s'attendait à un but de Choupo-Moting. Honnêtement,
on pensait aux prolongations, on était choqués. Vraiment, on a hurlé dans le bar. C'était une soirée de malade mémorable gravée à vie.
Paris menait, Paris dominait, mais Paris qualifié. Victoire au bout du temps additionnel hier soir face à l'Atalanta Bergame. Et le héros de ce scénario fou s'appelle Éric Choupo-Moting. Étant au pied de la deuxième vague de coronavirus, 2500 nouveaux cas en 24 heures et un nouvel appel du ministre de la Santé à porter le masque presque partout.
Bon, y a une règle des 4 points qu'on va appeler la règle A, B, C, D pour savoir quand il faut porter le masque.
Le détail de ces 4 nouveaux points à suivre. Dans ce journal également, l'été compliqué pour les réseaux internet, chaleur, afflux de touristes. Comment les opérateurs évitent-ils le blackout? Notre enquête à suivre. Les recherches qui se poursuivent dans les décombres de Beyrouth, 10 jours après l'explosion, nous serons avec les secouristes français. Et puis les Pyrénées voient les touristes affluer comme rarement cet été. Fréquentation en forte hausse pour le grand air et un aspect sanitaire.
D'habitude, les vacances étaient en famille à la mer. Cette année, on n'a plus eu envie d'aller à la montagne. L'impression qu'on pouvait faire des activités variées avec moins de monde autour.
Votre invité à 7h40, Sébastien.
Il est celui qui engage les discussions sur le port du masque au travail avec les partenaires sociaux. Faut-il aller jusqu'à une obligation généralisée dans les open space ou continuer de favoriser le télétravail? Le secrétaire d'État en charge de la santé au travail, Laurent Pietraszewski, à 7h40. Avant cela, l'édito éco, l'armée américaine au secours de Boeing. Et puis avec la baignade, attention à l'otite qui peut vite gâcher les vacances. Les conseils santé du docteur Jimmy Mohamed. Bon réveil, il est 7h02.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On a longtemps cru qu'il n'y arriverait jamais. Et puis, le miracle s'est produit. Le Paris Saint-Germain est en demi-finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 25 ans. Mais que ce fut dur! Mené 1-0 par Bergame dès la demi-heure de jeu, il a fallu attendre la 90e minute pour voir Marquinhos égaliser, la 93e pour que les Parisiens prennent l'avantage. Avec un héros inattendu, Julien Froment, l'éternel remplaçant Éric Choupo-Moting.
C'était un moment exceptionnel.
À son arrivée à l'hôtel, Éric Maxime Choupo-Moting, tout comme ses coéquipiers, ne s'attendait certainement pas à un tel accueil. Il faut dire que le PSG, ainsi que ses supporters, sont passés par toutes les émotions. À la 90e minute, ils étaient éliminés dans l'avion pour Paris. Et puis, le miracle de Lisbonne a eu lieu. 2 buts en 149 secondes et un sauveur inattendu.
C'est un jour spécial pour le PSG, pour nous tous. Et je me suis dit, quand je suis entré, bon, tout est possible dans la vie. Chaque match a sa histoire et ouais, je suis très très content que ça a marché comme ça.
Choupo, le héros qui a recueilli les suffrages des fans parisiens encore sur leur petit nuage.
Qui s'attendait à un but de Choupo-Moting? Honnêtement, c'est moi honnêtement. Le brassard est le numéro 10 pour Choupo, dès maintenant.
C'était incroyable, vraiment. On pensait aux prolongations, on était choqués. Vraiment, on a hurlé dans le bar. C'était une soirée de malade mémorable gravée à vie.
Le jour de son 50e anniversaire, le Paris Saint-Germain atteint donc le dernier carré de la Ligue des Champions. Et ce, pour la deuxième fois de son histoire. Il peut désormais, comme le dit sa devise, se permettre de rêver plus grand. Lisbonne, Julien Froment, Europe 1.
Et Charles Villeneuve est en ligne, en direct avec nous ce matin. Bonjour Charles.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1, ancien président du PSG, bien sûr, et grande voix d'Europe 1. Qu'est-ce que vous retenez ce matin de ce scénario, la force mentale des Parisiens pour aller comme ça au bout, arracher la victoire?
La force mentale, mais surtout l'entrée de Paredes et de Mbappé qui a tout changé, parce qu'on se retrouvait sur le terrain à l'appui de Neymar, trois créateurs. Alors, ce dénouement est inattendu. Mais il sonne, je trouve, comme une ironie, parce que la qualification qui a surgi à la 93e minute par le joueur dont plus personne ne voulait au Paris Saint-Germain, Choupo-Moting, qui s'est transformé en finisseur, qu'il n'a jamais été durant toute la saison. Il a même été le détonateur de l'action qui conduit à l'égalisation de Marquinhos. C'est une métamorphose éclair et sympathique, compte tenu de la décontraction de ce joueur, qui a pris hier soir une dimension de mascotte. Et dès lors, je ne sais pas si Paris va peut-être lui tendre une perche et le garder. Ce qui m'a réjoui, c'est que Neymar était au sommet hier soir, dans l'intensité de son jeu, dans la qualité, et curieusement pas dans la finition, alors que c'est là où il excelle.
Et ce sera une des clés pour les demi-finales. Ça fait 25 ans que le PSG n'avait pas connu une demi-finale de Ligue des Champions. On connaîtra ce soir l'adversaire, ce sera soit l'Atlético de Madrid, soit Leipzig. Est-ce que pour vous, le PSG est mieux armé qu'en 95 pour aller au bout cette fois-ci?
Oui, il est mieux armé parce qu'il a l'un des meilleurs joueurs du monde et il a surtout, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, son complément absolument sidérant, c'est Mbappé. Ce qui m'a surtout, si vous voulez, qu'à moitié étonné, c'est la médiocrité du milieu de terrain du Paris Saint-Germain en première mi-temps avec le tandem Gueye et Herrera. C'est là où, en partie, vous le savez, se perd ou se gagne un match. Et là, dans les deux adversaires qui lui sont proposés, je préférerais que ce soit les Allemands, Leipzig, mardi soir, pour cette demi-finale, et pas l'Atlético de Madrid, qui est un véritable mur de défensif.
Eh bien, on saura ce soir quel sera cet adversaire. Demi-finale donc mardi, le rendez-vous est pris. Vous suivrez cette demi-finale sur Europe 1. Merci beaucoup Charles Villeneuve, grande voix d'Europe 1, ancien président du PSG, le PSG qui fêtait hier aussi ses 50 ans d'existence. Une belle manière de fêter cet anniversaire. Bonne journée à vous Charles.
Europe 1, 7h06.
Le match contre le coronavirus, lui, continue de jouer les prolongations et il n'est pas en passe d'être gagné. On a enregistré hier 2500 nouveaux cas en 24 heures. C'est une première depuis le mois de mai. Alors certes, on teste beaucoup plus de monde, mais la hausse du nombre de cas positifs dépasse la hausse du nombre de tests.
Ouais. Bordeaux annonce à son tour le port du masque obligatoire en centre-ville. Ce n'est pas à l'ordre du jour au niveau national, répète le ministre de la Santé Olivier Véran. Il était l'invité hier soir du 20h de France 2 et il plaide quand même pour une utilisation plus large de ce masque, avec une nouvelle règle assez précise. Écoutez.
Il n'y a pas besoin d'obligation nécessairement en France pour qu'on puisse se protéger. Moi, il y a une règle des quatre points qu'on va appeler la règle A, B, C, D pour savoir quand il faut porter le masque. A, c'est pour quand on est à risque, quand on est fragile, quand on est âgé par exemple. B, c'est quand on est dans un lieu bondé. Quand vous êtes dans une rue, même si le port du masque n'est pas obligatoire, mais que vous voyez que vous circulez difficilement entre les personnes, il faut s'équiper avec le masque. Ce sont pour les endroits qui sont clos, quand vous êtes en intérieur avec d'autres personnes. Et puis D, c'est quand la distance est impossible à gérer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester à au moins un mètre des personnes. Avec des règles, avec une compréhension de l'utilité du masque, les Français sont capables de se protéger. D'ailleurs, ils sont très nombreux à le faire. Cela étant, nous avons donné la possibilité, partout où c'est décidé localement, de généraliser le port du masque, y compris à l'extérieur.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, invité hier soir du 20h de France 2. Il n'y a plus de département en vigilance orange aux orages, mais 44 restent toujours en alerte orange à la canicule.
21.
Un grand quart nord-est.
21 départements.
Eh ben, j'ai pas actualisé ma carte. Merci à vous, Marlène. Et notre enquête ce matin, justement, sur cette chaleur et l'afflux de touristes dans certaines régions qui mettent à l'épreuve les réseaux Internet. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour.
Spécialiste nouvelles technologies d'Europe 1. Comment les acteurs du secteur, Clément, s'organisent pour tenir le choc?
Alors les opérateurs en conviennent tous, hein. C'est une période compliquée. Dans certaines communes, la population est multipliée par 3, 5, voire 10 en quelques jours. Et entre les Instagrammeurs fous, ceux qui ne peuvent pas se passer du GPS en randonnée et ceux qui ne lâchent pas Netflix même au camping, bien la surcharge est vite arrivée. On ne parle pas de panne ou de blackout bien sûr, mais plutôt de petits ralentissements ici ou là. Les opérateurs minimisent, mais il faut bien le dire, ça devient vite énervant quand on n'arrive même pas à appeler quelqu'un en Wi-Fi. C'est agaçant, mais c'est inévitable, reconnaît Nicolas Drouillet, directeur réseau Grand Sud-Est chez Orange.
Il y a forcément une limite capacitaire sur un réseau, donc ponctuellement et temporairement, la limite capacitaire peut être franchie. Maintenant, ce que nous faisons, c'est que nous augmentons chaque année la capacité du réseau en conséquence.
Alors les réseaux sont donc conçus pour absorber un afflux soudain de téléphones et d'ordinateurs, et ce grâce aux données. Elles sont partout, hein. Bouygues, SFR et les autres analysent la consommation des sites touristiques tous les étés. Ils en tirent ensuite des prévisions et si nécessaire, ils augmentent la capacité du réseau pour l'été suivant. Mais toutes ces prévisions n'empêchent pas les pépins, notamment météo par exemple. La canicule peut endommager des boîtiers électroniques, c'est ce qu'on nous explique chez Bouygues. Et le vent peut être fatal sur les îles, une grosse rafale et les antennes qui les relient au continent se décalent. Derrière, la transmission ralentit et c'est l'embouteillage pour poster ses photos de vacances.
Mais Clément, quelles sont les solutions pour acheminer tant bien que mal le réseau vers les vacanciers?
Il y a d'abord le travail réalisé tout au long de l'année. Les opérateurs installent des antennes 4G pour couvrir un maximum de lieux touristiques. Par exemple, Orange a récemment couvert la Vallée Blanche, hein, au-dessus de Chamonix. On est à plus de 3000 mètres d'altitude, mais les 800 000 touristes qui empruntent chaque année le téléphérique pour l'Aiguille du Midi sont désormais connectés en 4G jusqu'au sommet. Et puis, il y a les solutions d'appoint, comme les antennes mobiles. Ce sont des équipements installés dans des camions. Il suffit de les relier au courant électrique pour donner un coup de boost au réseau local. Tous les opérateurs en ont. D'ordinaire, ces camions sont utilisés pour pour les festivals, mais ils peuvent aussi dépanner les stations balnéaires surchargées.
Clément Le Saffre, enquête spécialiste des nouvelles technologies d'Europe 1.
7h10, la suite du journal Théo Manval, Sébastien Krebs.
Au Liban, le parquet va entendre à partir de demain plusieurs ministres et anciens ministres responsables du stockage de ces milliers de tonnes de nitrate d'ammonium à l'origine de l'explosion qui a fait 171 morts.
La ministre française des Armées, Florence Parly, sera en déplacement sur place aujourd'hui, alors que dans les décombres, des secouristes, notamment français, continuent de chercher des rescapés 10 jours après la catastrophe. Nicolas Fellman.
Il manque 6 pompiers à trouver, il faut qu'on les trouve.
Gentil de Passos regarde la pelleteuse dégager les gravats, un mélange de béton et d'acier. Il est sapeur-pompier dans l'ONG du groupe Secours de Catastrophe Français.
Donc là, juste en face de nous, on a une entrée qui rentre dans le silo avec divers couloirs. On va rechercher des personnes et le miracle existe toujours, donc pourquoi pas un vivant.
Mais pour le lieutenant Andrea, c'est désormais mission quasi impossible. Les poches d'oxygène sous les décombres se font rares. Ce militaire de la sécurité civile coordonne la zone de recherche française. Un drone survole le cratère formé par l'explosion et rempli d'eau de mer. Des plongeurs français et libanais cartographient les fonds.
C'est pour mesurer l'étendue des dégâts, pour s'imaginer qu'est-ce qui est totalement détruit, qu'est-ce qu'on a gardé en surface. C'est une cartographie à la fois pour trouver les personnes, mais aussi pour reconstruire derrière. C'est un travail qui peut servir pour les années à venir.
On va commencer la recherche.
Un peu plus loin, deux chiens reniflent les décombres.
Vous avez Sino plus... Si jamais il sent quoi que ce soit, il va soit se fixer, s'arrêter, soit tout simplement aboyer. Ce sera potentiellement pour nous le signe d'une victime. Et donc nos équipes derrière vont travailler en recherche pour essayer de confirmer le travail du chien.
Et pour identifier les corps, des gendarmes de l'Institut de Recherche Criminelle restent mobilisés aux côtés des Libanais. À Beyrouth, Nicolas Feldman, Europe 1.
Et ici en France, un élan de solidarité s'organise pour exporter du blé vers le Liban qui risque la famine car ses plus gros stocks de blé, 15 000 tonnes dans le port, ont été soufflés par l'explosion.
Bonjour Vincent Guyot.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes agriculteur, vous êtes céréalier dans l'Aisne et vous avez lancé en début de semaine une initiative justement donc sur les réseaux sociaux, une tonne de blé pour le Liban, un appel à tous vos collègues agriculteurs et au ministère de l'Agriculture pour collecter ce blé et l'acheminer vers Beyrouth. Votre message a été largement relayé sur les réseaux sociaux. Vous en êtes où ce matin? Les choses avancent?
Les choses sont en cours de réalisation au niveau opérationnel pour les dons qui vont provenir des agriculteurs. Donc on est avec l'ensemble de la filière céréalière, on est en train de mettre en place un système qui permettra à tout agriculteur céréalier de pouvoir donner une tonne de blé s'il le souhaite.
Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a été à l'origine de cet élan assez spontané de votre part?
Bien entendu, j'ai été un petit peu choqué par les images que j'ai vues de Beyrouth avec le silo céréalier éventré. Nous, on était quand même au lendemain de la moisson 2020, on venait de la finir, donc ça faisait à peu près 15 jours que je voyais des épis de blé toute la journée et que je travaillais d'arrache-pied pour récolter ce blé pour nourrir la planète. Mmh. Et de voir cette catastrophe, ça a été un petit peu un choc pour moi.
On a parlé de ces moissons mauvaises hein, cette année en 2020, on a les moyens quand même d'exporter une tonne ou plus vers le Liban?
Une tonne par agriculteur, je pense qu'il n'y a pas de problème. On est entre 200 et 250 000 agriculteurs français céréaliers. Quand on fait une moisson normale, la France est capable d'exporter un grain de blé sur deux hors de nos frontières. Donc là, comme vous venez de le dire, malheureusement, la moisson 2020 n'est pas du tout un bon cru et donc elle ne va pas du tout arranger la situation des agriculteurs français. Toutefois, nous avons la capacité de pouvoir organiser une chaîne de solidarité et d'organiser un transfert de blé jusqu'au Liban.
Votre appel a un écho auprès des autorités françaises, a eu des réponses, le ministère de l'Agriculture va vous aider?
L'ensemble de la filière céréalière est en concertation avec le ministère parce que vous imaginez bien que pour organiser une chaîne de solidarité entre la France et le Liban, obligatoirement ça se fera via un bateau qui devra partir de France mais qui devra être réceptionné à Beyrouth et donc ça demande quand même de toute façon des autorisations ministérielles. Et donc tout ça va s'organiser avec les autorités de notre pays.
Merci beaucoup, merci Vincent Guyot d'avoir été avec nous ce matin, céréalier dans l'Aisne, et donc votre appel à donner une tonne de blé pour le Liban, appel lancé à tous les agriculteurs de France. Merci, bonne journée.
Enfin, les vacances en France, on la cote cet été avec les restrictions de voyage liées à la crise sanitaire, et vous êtes très nombreux à choisir la montagne, loin des foules, du bord de mer. Les stations des Pyrénées enregistrent une fréquentation jamais vue. C'est notamment le cas à Saint-Lary-Soulan où s'est rendu Benjamin Péter.
Alors on est prêt, je monte sur la trotte et puis on se retrouve un tout petit peu plus loin quoi.
Et c'est parti pour 1h30 de descente en trottinette tout terrain depuis le col d'Azette jusqu'à la station. François apprécie cette activité familiale, c'est la première fois qu'il vient en montagne l'été.
D'habitude c'était les vacances, c'était en famille à la mer. Cette année on a plus eu envie d'aller à la montagne. L'impression qu'on pouvait faire des activités variées avec moins de monde autour.
Comme lui, ils sont nombreux à avoir fait ce choix. La fréquentation a bondi de 20% dans la station, de quoi compenser un début de saison plombé par le confinement pour Jean-Marie, le patron de l'hôtel-restaurant Mire Pergola.
Là, on est complet depuis début juillet. On a plein d'appels et on refuse tous les jours des séjours plutôt longs. 15 jours à la montagne, en hôtel, on avait plus ce type de clientèle, mais aussi des gens qui veulent venir à la journée.
Cette nouvelle clientèle, Jean-Michel, qui organise des sorties en VTT, en trottinette ou en canyoning, espère bien la fidéliser.
L'effet Covid bénéficie à la montagne, c'est un été qu'il ne faut pas rater. Cette clientèle, en fait, se rend compte du potentiel que l'on a en montagne l'été et a envie de revenir, quoi. Ouais. Sur le nombre, bon, je pense qu'on va en recapter une partie les étés prochain, on l'espère.
Et s'il y a plus de monde, c'est aussi que le panel d'activités s'est multiplié depuis quelques années. Une diversification imaginée pour compenser le manque de neige, mais qui trouve aussi son public l'été. À Saint-Lary-Soulan, Benjamin Péter, Europe 1.
Tous sur votre trottinette. C'était le journal de Théo Manval. Le prochain journal avec Sophie Tussaud.